Bonsoir, entrons ensemble dans le temps du débat comme tous les soirs sur France Culture entre 18h20 et 19h. À l'ordre du jour ce soir, comment mieux aider les victimes d'attentats? Depuis plus de 40 ans, la France, comme d'autres pays européens, a subi de nombreux attentats sur son sol qui, pour chacun d'entre eux, a provoqué la mort de nombreuses victimes, mais aussi a blessé physiquement et psychiquement de nombreux survivants dont l'identité ne peut être résumée par ce seul qualificatif. Les autorités publiques ont dû mettre en place des systèmes d'aide pour leur permettre de dépasser le traumatisme. Personne n'étant préparé à tenir une telle situation sur une durée aussi longue, il a fallu aussi inventer des procédures qui soutiennent et qui ne blessent pas plus. Pour en parler ce soir, Elisabeth Peslez, elle est magistrate, elle est déléguée interministérielle à l'aide aux victimes. Richard Reichmann est psychiatre et anthropologue, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Vous avez écrit en 2007 un livre sur la condition de victime et vous publiez un autre livre en janvier consacré à la vie ordinaire des génocidaires. Arthur Desnouveau est également avec nous. Il est président de Life for Paris et co-auteur avec Antoine Garapon de « Victimes et après » dans la collection Tract Gallimard. Et également avec nous, Catherine Bertrand, graphiste et illustratrice et autrice de Chroniques d'une survivante aux éditions de La Martinière.
On joue sur l'étymologie qui nous rappelle de manière tout à fait surprenante, voire scandaleuse, que la victime est liée au sacrifice. Et dans le fond, il faut commencer par travailler, si on veut aider les victimes, il faut travailler sur notre regard. On dirait les psychanalystes sur le transfert. On transfère beaucoup de choses sur les victimes. D'abord, on est, nous, ceux qui n'ont pas été victimes, contents de ne l'avoir pas été. Et puis, en plus, il y a cette ambivalence, on pourrait dire. Et d'ailleurs, la victime a quelque chose à voir avec le sacré, avec la sacralisation. Et dans nos société en perte de récit, en trouble et en transformation profonde, paradoxalement, la victime est une manière de reconstituer subsidiairement une communauté politique. C'est donc un enjeu.
Vous avez reconnu, puisque vous êtes auditeur de France Culture et auditrice de France Culture, Antoine Garapon, c'était lundi dernier sur France Inter, vous y étiez avec lui, donc Arthur Desnouveau, pour présenter votre livre commun sur Victimes et après, donc et évidemment Antoine Garapon, bonsoir à vous Richard Reichmann, eh bien évoquer cette question du sacré, du sacrifice autour de cette question de la victime. Dans le petit livre que Antoine Desnouveau et Antoine Garapon ont écrit, qui s'intitule donc « Victime et après », il y a une citation de Lévinas. On a parlé de Lévinas hier à propos du visage dans cette émission « Le temps du débat ». « La violence ne consiste pas tant à blesser, à anéantir qu'à interrompre la continuité des personnes, qu'à leur faire jouer des rôles où elles ne se retrouvent plus, à leur faire trahir non seulement des engagements, mais leur propre substance. » Est-ce qu'on peut justement partir dans notre discussion de cette question-là, justement, de ce que interrompt un attentat?
Ah oui, je trouve que c'est un très bon moyen de commencer le débat, puisque ça vient briser un cours supposé naturel et ordinaire, et qui n'était pas prévu de s'arrêter de la sorte, soit par une blessure, soit par le décès pour les proches. Et c'est cette rupture qui va avoir deux effets, je dirais, principaux, des effets individuels et des effets collectifs. Individuel, le premier effet, c'est bien sûr de se dire que l'illusion dans laquelle on se trouve généralement, qu'il ne peut rien arriver, tombe. Et c'est très compliqué quand on perd ces illusions, quand on perd ce sentiment que l'univers autour de soi n'est pas forcément hostile, qui nous permet de traverser la rue, qui nous permet de vivre au quotidien. L'attentat introduit immédiatement cette disparition, pourrait-on dire, de ce qui est l'évidence habituelle, c'est qu'il ne va rien se passer. Il peut se passer. Dès lors qu'on commence à avoir le savoir qu'il se peut se passer quelque chose, alors la peur est régulièrement là, l'inquiétude devient là, et l'hostilité est partout. Sur le plan collectif, c'est un autre qui intervient à ce moment-là. Sur le plan collectif, c'est une rupture du consensus social. Et là, je pense qu'on a des gens qui vont pouvoir nous en parler encore plus facilement que moi.
Elisabeth Peslez, bonsoir. Vous êtes donc déléguée interministérielle à l'aide aux victimes. C'est un poste important puisque tous les types de victimes peuvent venir vous consulter et vous voir, que ça soit des victimes d'accidents, de catastrophes donc naturelles, comme on le dit, mais également évidemment d'attentats. Cette question qui était évoquée par Antoine Garapon, qui travaille d'ailleurs de temps en temps aux côtés de vous, qui était cette question du sacrifice et du sacré dans la société, cette idée qu'il y a cette victime qui peut être presque une victime expiatoire, qui est une façon de se poser dans la société. Est-ce que vous la ressentez lorsque vous recevez en particulier des victimes d'attentats ?
Alors, ce qui est sûr, c'est que depuis plus de 30 ans, la place de la victime, à la fois dans la procédure judiciaire, mais dans la société, a nettement évolué. On est parti dans les années 82-83 avec Robert Badinter de l'idée qu'il fallait accorder une place spécifique aux victimes et progressivement, à la fois sur le plan législatif, sur le plan de l'organisation, la place de cette victime est devenue de plus en plus importante. Quand vous dites que moi j'ai en charge des victimes d'attentats, de catastrophes naturelles, d'accidents collectifs, ce qui me frappe, et par rapport à ce que vous avez dit aussi, c'est que à la fois il y a des points communs, une rupture brutale due à ce qui s'est passé, et en même temps dans le cadre des attentats, et on le voit au terme de cette journée de commémoration, et chaque fois je suis frappée par les témoignages et les récits, c'est quelque chose d'indescriptible qui touche finalement une communauté bien au-delà. Et quand on a les commémorations à Paris, on voit à quel point un quartier, une ville entière sont touchés encore aujourd'hui. Et quand je vais dans d'autres villes, à Nice, on aura les commémorations à Strasbourg en décembre, c'est la même chose. Donc la place de la victime, effectivement, elle est devenue de plus en plus grande, de plus en plus importante. Et la place qu'on lui donne, c'est aussi, dans une société démocratique, un point très important de son fonctionnement.
Mais il ne faut pas que cette victime soit parlée par les autres. Il faut qu'elle parle aussi, d'une certaine façon. Parce qu'il y a la façon dont on la parle, dont on la présente, dont on la pense, cette victime. Mais aussi la façon dont elle peut elle-même dire ce qu'elle a à dire.
Alors, ce qui me paraît évident, c'est que les victimes parlent de plus en plus à court terme par rapport à l'événement qui a été subi. Je pense que si on compare à d'autres événements pour lesquels la parole a été bridée pendant des années, il me semble que l'expression des victimes est de plus en plus fréquente juste après l'événement, voire quelques années après.
Je disais tout à l'heure, Arthur Desnouveau, que évidemment il a fallu s'habituer à cette situation d'attentat sur le sol métropolitain, même si on en avait connu pendant la guerre d'Algérie en particulier. Mais il a fallu se réhabituer à cette rythmique, pourrait-on dire, tragique des attentats qui se déroulent sur le territoire métropolitain. Et donc, il a fallu bricoler des solutions, des façons de se comporter collectivement et individuellement face à ceux qui ne veulent pas être considérés que comme des victimes.
Tout à fait. Ce qui est intéressant, c'est aussi que ça marque le côté citadin des gens ou pas. Quand vous allez en province, hors des grandes villes, et que vous expliquez que à Paris, de toute façon, les gens se sentent proches de vous quand vous avez été victime d'un attentat, parce qu'ils ont toujours en tête ce risque et que ça fait partie de la manière dont le mode de vie parisien, mais pas uniquement parisien, se construit actuellement. Les gens se demandent pourquoi vous habitez encore dans ces villes-là. Donc, ça dit beaucoup quelque chose de notre société. Mais c'est sûr que c'est aussi pour ça que la parole des victimes est tellement importante pour les gens. C'est parce que finalement, vous êtes, à votre corps défendant, ceux qui n'ont pas réussi à éviter ce que tout le monde cherche à éviter. Et ça a quelque chose de fascinant, vraiment dans un sens encore une fois religieux, pour les gens, de voir que certains n'arrivent pas à passer entre les mailles du filet.
Quand vous écrivez Catherine Bertrand, c'était l'année dernière, c'est paru l'année dernière, Chronique d'une survivante, aux éditions La Martinière, vous y racontez comment vous avez survécu à l'attentat du Bataclan, et justement, vous mettez au cœur le rapport que vous entretenez en tant que survivante, même si ce terme peut être discuté, contesté, parce que ça n'est pas la seule identité que l'on porte quand on a survécu à un attentat, vis-à-vis des autres, ce que les autres vous disent, avec une sorte de petit manuel qui nous permet de nous dire, à la fin en particulier, ben voilà ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire quand on se trouve en présence d'une ou d'un survivant, justement, d'un attentat comme celui-ci.
En fait, ça a répondu à un besoin pour moi, parce que je n'ai pas trouvé de livre de ce genre. Voilà, le stress post-traumatique en France, c'est pas très connu. Moi, je l'ai subi, je le connaissais pas. Voilà, c'était quand même assez réservé à des victimes d'anciens attentats, effectivement, mais voilà, la parole des victimes, elle n'a pas été spécialement relayée. Pour moi, le traumatisme, c'était plutôt réservé aux militaires.
Il faut dire que ce PTSD, il a été inventé dans des contextes juste souvent militaires, en particulier pendant la guerre du Vietnam, pour les soldats qui revenaient de la guerre du Vietnam. C'est cela, Richard?
Oui, c'est à ce moment-là qu'il a été transformé, mais n'oublions pas qu'il a été transformé en PTSD pour faire entrer les auteurs d'atrocités parmi des victimes de guerre, ce qui est quand même
un peu,
une petite différence.
Un peu étrange. Catherine Bertrand, vous ne connaissiez pas justement ce PTSD, ce syndrome post-traumatique, et vous avez dû l'affronter vous-même, parce que vous y racontez très bien dans ce petit livre comment ce boulet surgit à un moment où on ne l'attend pas, on pense en être débarrassé et il revient. Et donc vous dites, il faut aussi que tout le monde s'aperçoive de ce qu'il faut faire face à ceux qui ont vécu un tel traumatisme.
Le problème avec ce traumatisme, et même tout petit de traumatisme, on parle de blessures psychiques, donc ça ne se voit pas. Donc ce sont des blessures invisibles, c'est pour ça aussi que je l'ai...
Vous l'avez très bien dessiné.
J'ai voulu le matérialiser, le concrétiser par un boulet, parce que pour moi, quand c'est abstrait, c'est trop compliqué, et puis quand c'est abstrait, c'est trop compliqué aussi pour les autres. Donc il a fallu que j'envoie un message fort. C'était pour moi essentiel d'être le plus clair possible, surtout pour toutes les générations. Donc c'est pour ça que j'ai fait quelque chose d'assez simple.
Arthur, des nouveaux.
Ce que je dois dire, c'est que pour les victimes du 13 novembre, cet ouvrage de Catherine, alors je sais qu'elle va me reprocher de la flatter, a vraiment marqué une étape importante. La première fois que j'ai rencontré Elisabeth Pelzer, je lui ai offert ce livre en lui disant, voilà, je crois que c'est vraiment un témoignage à hauteur d'homme de ce qui arrive aux victimes et de la difficulté qu'elles ont à se reconnaître elles-mêmes et à se faire reconnaître.
Elisabeth Pelzer, justement, il y a cette dimension créatrice aussi qui, malheureusement, intervient justement puisque c'est le cas de Catherine Bertrand. Elle est devenue graphiste, dessinatrice pour raconter sa propre histoire d'une certaine façon. Mais on peut parler aussi de Catherine Meurice qui, avec la légèreté, nous a profondément ému pour les attentats de Charlie Hebdo, d'une façon justement de dépasser ce traumatisme qui les frappe.
Alors effectivement, moi j'ai beaucoup aimé ce livre de Catherine Bertrand. Je l'ai lu et relu parce qu'en fait, j'ai retrouvé à travers les images qu'elle dessinait beaucoup de choses qui ont été dites par d'autres victimes. L'image aussi de toutes les gaffes, entre guillemets, qu'on peut faire. Et moi j'ai dit souvent que en exerçant
il y en a une effectivement tu vas pas te laisser abattre par exemple
voilà ou des mots malheureux celui que vous citez et moi j'ai dit souvent que dans mon métier j'ai appris à me taire pour écouter parce que
en tant que magistrate déjà vous l'exerciez c'est...
oui mais souvent la pensée vient dominer finalement le récit de quelqu'un et apprendre à se taire pour écouter, c'est aussi se laisser envelopper par ce qui est dit. Et je pense que c'est très important. Mais ce qui est la création, il y a quand même beaucoup de création et pas seulement à travers des livres. Moi, j'étais aussi très sensible à des parents, par exemple, qui ont perdu un enfant et qui veulent composer un air de musique qui sera repris dans différentes commémorations ou autres. Il y a aussi des gens qui ont dessiné, qui ont fait des fresques. On avait utilisé une des fresques qui avaient été faites. Et toutes ces expressions artistiques, elles sont très importantes. Et elles rejoignent aussi la fin du livre « Victime et après ». Parce que quelque part, il y a un hymne à la vie qui se dégage en fait de l'expression artistique.
J'utilisais tout à l'heure, Richard Eichmann, cette expression qui est peut-être malheureuse, mais de bricolage. Il a fallu bricoler, parce qu'effectivement, une société n'est pas habituée à de telles intrusions de violence dans son sein. En tout cas, nos sociétés occidentales ne l'étaient pas. Et donc, on a fait une sorte de mélange entre, justement, soutien psychologique, soutien médical, soutien par les médicaments, évidemment, il faut aussi le dire, et puis des cérémonies, tout ce qui, d'une certaine façon, peut permettre peut-être la pose de plaque, on l'a fait, la création d'un monument, on en parlera peut-être tout à l'heure. Enfin, tout un tas de moyens pour pouvoir justement permettre de faire prendre conscience qu'une société n'oublie pas les victimes de ces attentats.
Je dirais que ça va bien au-delà de ça. Hein. C'est comment une société est capable de reconstruire la solidarité et le tissu social lorsqu'il y a une effraction. pourquoi nous étions pas habitués à cela, alors que dans d'autres sociétés, par exemple, il y a des attentats tout le temps et ça pose pas énormément de problèmes. Pourquoi ça pose moins de problèmes à la société, pas aux individus, bien sûr? C'est parce que ce sont des sociétés qui n'ont pas les mêmes espaces démocratiques et pour lesquelles le destin de chacun n'importe pas par rapport au destin de tous. Dans une société démocratique comme la nôtre, c'est justement l'inverse, l'énoncé. Le destin de chacun fait partie du destin collectif. Alors comment on gère un moment où certaines individualités sont touchées plus que d'autres, et pour une raison tout à fait occasionnelle, c'est-à-dire qu'ils étaient là, c'est pas eux qui sont ciblés, ils sont ciblés parce qu'ils étaient là, et ça vient une rupture avec l'ensemble du consensus social. Donc le groupe a nécessité de réinclure ça. C'est pour ça que quand vous utilisez le terme de bricolage, j'aime bien, si c'est le bricolage au sens de Lévi-Strauss, c'est-à-dire qu'effectivement, une forme de pensée très importante, parce que c'est essentiel que tous ces moyens soient réunis pour bien dire ce qui arrive à un est quelque chose qui est arrivé à l'ensemble de la société. C'est pas simplement se souvenir, c'est bien rappeler à chaque fois que la société dans son ensemble est engagée dans ce qui s'est passé.
Arthur, on est à nouveau avec Antoine Garapon dans Victime et Après, donc le petit tract Gallimard qui vient tout juste de sortir. Vous dites aussi que l'après de la victime, c'est la dette qu'elle fait poser sur tous les membres de la cité. C'est-à-dire, d'une certaine façon, sa simple présence, votre simple présence ici, dit à tous ce que vous avez vécu, que vous avez survécu, qu'il y en a d'autres qui n'ont pas survécu, et que donc la société a une dette. Mais comment justement qualifier cette dette? C'est une dette morale, c'est une dette financière, on en parlera peut-être tout à l'heure, il y a la question des indemnités, c'est une dette historique, c'est une dette qui doit peser sur 10, 20, 30, 50 ans, 100 ans, comme les guerres, par exemple. Qu'est-ce que vous en pensez de cela?
C'est extrêmement complexe. Surtout et notamment une dette individuelle, et c'est pour ça que c'est très compliqué de donner une réponse trop générique. Et je crois que cette dette, elle est encore accentuée récemment, parce qu'en fait, pour reprendre ce que vous disiez, je ne crois pas que les gens sont visés simplement parce qu'ils étaient là, dans les attentats récents. Ils sont visés parce qu'ils étaient là, et que c'est un là que les terroristes ont choisi de viser. Et que donc ça dit encore plus de la société, parce que les terroristes ont malheureusement cette intelligence de viser quelque chose auquel les gens se raccrochent et pensent ressembler. Et donc,
vous dites dans le petit victime et après, le terroriste vise des innocents afin d'embraser une société et de faire réagir le souverain. Son objectif n'est pas de stopper la violence, mais à l'inverse de la déclencher.
Exactement. C'est l'inverse du sacrifice tel qu'on le connaissait dans l'Antiquité, où on sacrifiait pour apaiser les dieux. Là, en fait, on sacrifie pour embraser toute une société. Et notamment, et c'est très intéressant ce que vous disiez sur la part dans les sociétés démocratiques de l'individu, c'est que je ne crois pas que le terrorisme actuel essaye de déclencher une guerre civile, mais plutôt ce que nous, on appelle dans notre tract, une guerre de la civilité. C'est-à-dire vraiment rompre tout lien entre les individus, isoler au maximum, et rendre en fait la société complètement inexistante. C'est d'ailleurs là-dessus, si on regarde, qu'ils se sont basés pour prospérer dans le nord de la Syrie.
La cité, c'est la politique, en l'occurrence Elisabeth Pelsé. C'est normalement à la politique de prendre en charge tout cela. Mais comment le prendre en charge?
Vous voulez dire à prendre en charge globalement?
La police, la cité, donc et donc à partir de ce moment-là, la cité au sens grec, et donc à la politique qui gère la cité.
Alors je crois que la politique, c'est aussi l'action. C'est-à-dire inscrire des mesures concrètes, et à partir de ce que disent aussi les victimes et de ce dont elles ont besoin, pouvoir établir vraiment un plan d'action. Quand Catherine Bertrand dit, par exemple, le stress post-traumatique, c'est quelque chose qui était pas forcément très bien connu ou autre, quelle action on peut mener? Donc, on a créé un centre national de ressources et de résilience, dont l'objectif est de rassembler toute la recherche sur le stress post-traumatique, de former au sens large, le corps médical, de pouvoir aussi créer un website avec des offres de soins. L'action menée par une politique, c'est aussi de pouvoir envisager les choses dans ce qui est vraiment le parcours de la victime. Et ça, je crois que c'est une notion très importante. Depuis le commencement du drame jusqu'à sa possibilité de revenir dans la société avec une vie nouvelle.
Parce que Catherine Bertrand, dans votre chronique d'une survivante, vous racontez que quand vous allez voir votre médecin traitant, votre médecin habituel, il ne sait pas comment faire, il ne sait pas comment vous parler, il ne sait pas comment vous accueillir, il ne sait pas quoi vous dire d'une certaine façon, et que dans cet entre-deux, il y a une sorte de grincement dont vous ne savez pas quoi faire et qui accentue même votre traumatisme.
C'est même pire que ça. C'est que mon médecin traitant, qui est enfin une femme, elle n'a pas compris. J'ai dû lui dire pendant plusieurs minutes que j'étais à l'intérieur du Bataclan. Son cerveau refusait de l'accepter. Elle était en état de choc. Après, effectivement, elle n'a pas réussi à trouver les mots ni rien. Bon, voilà, c'est un médecin traitant, donc c'est un médecin généraliste.
Et vous racontez une sorte de parcours, je n'ai pas utilisé le parcours du combattant, puisque ça n'est pas le cas, mais de parcours dans la société pour comprendre où sont vos droits, ce que vous pouvez faire, qui appeler pour pouvoir vous aider, comment obtenir une aide d'État, une aide du fonds de garantie, etc., auquel vous avez droit.
Non, j'ai été plutôt bien informée. J'ai été pris en charge à l'hôpital, on m'avait donné des papiers, effectivement. J'ai eu la chance d'être prise en charge aussi avec Paris de victimes. Donc j'ai eu quand même des choses qui se sont faites assez rapidement, même par rapport au fonds de garantie qui s'engage à verser une provision dans le mois, je crois, à partir du moment où on fait la demande. Donc il y a quand même des choses qui sont mises en place dès le début. C'est après que c'est compliqué. C'est que on croit que c'est fini, mais en fait c'est que le début. On se bat parce qu'on comprend qu'en fait il faut un psychiatre et que il y a pas de psychiatre disponible.
Culture, le temps du débat, Emmanuel Laurentin.
Un extrait de Eric Clapton, Tears in Heaven. On ne joue plus pour les commémorations comme celle de ce matin, forcément les hymnes nationaux comme on le faisait pour les guerres, mais on fait choisir à ceux qui sont présents et aux associations des titres, et celui-ci évidemment écrit par Eric Clapton à l'occasion de la mort de son fils Connor, fait partie de cette manière de se souvenir de ceux qui ne sont pas là. Alors, Elisabeth Pelcé, quand vous avez ce rôle de déléguée interministérielle à l'aide aux victimes, on se dit, ben voilà, il y a 4 ans de passé, est-ce que justement ce temps permet aux victimes de se reconstruire, comme on le dit souvent, mais on s'aperçoit que non, qu'il y a des gens qui viennent encore vous voir 4 ans plus tard, qui se déclarent très tardivement. Alors comment fait-on avec cette temporalité? Parce que cette temporalité, ce n'est pas la temporalité habituelle d'un deuil. Par exemple, c'est-à-dire que voilà, on a un de ses proches qui meurt, on l'enterre, et puis évidemment c'est dur de se reconstruire, mais là il y a une durée encore plus longue, presque à moyen terme pourrait-on dire.
Même sur le deuil, pour avoir travaillé récemment sur cette question, c'est pas si facile que ça d'établir la temporalité. Mais pour les victimes, c'est vrai, puisque en fait, on sait que ce soit pour les attentats de Paris, que ce soit pour les attentats de Nice, il y a de nouvelles victimes qui se manifestent. Et moi, ce qui m'avait le plus frappé, c'est quand on a signé la convention avec Pôle emploi, on avait invité plusieurs personnes, et c'était pour les victimes du terrorisme, et il y a une jeune fille qui a témoigné en disant « J'ai mis 2 ans à accepter le mot de victime. » Et un matin, je me suis dit « Oui, je suis victime, et donc je peux entamer des démarches. » Et j'ai même rencontré plusieurs fois des victimes pour lesquelles, comme disait Catherine Bertrand, on a donné par exemple des papiers à l'hôpital et qui n'ont jamais pu les intégrer. Mmh. Et moi, une des questions qui demeure pour moi dans l'exercice de mes fonctions, c'est justement cette temporalité qui doit se conjuguer avec le fait de ne pas être non plus trop intrusif, c'est-à-dire quand on sait, quand on rappelle les victimes de manière régulière, etc.
Oui, parce qu'il faut re-raconter son histoire.
Faut re-raconter, puis ça peut être contre-productif. Et en même temps, si on ne le fait pas, il peut y avoir cette sensation d'oubli. Et donc, il faut à chaque fois trouver la bonne combinaison.
Richard Eichmann, puis Arthur Desnouveaux, oui, et Catherine Bertrand.
Ça ne s'improvise pas de savoir écouter des victimes et de savoir les traiter. Ce n'est pas parce que dans la société, tout à coup, on se rend compte qu'il y a des gens qui ont été blessés, que tout le monde, un médecin, un psychologue ou un psychiatre qui n'est pas habitué à cela, saura écouter, saura trouver les mots. Ça ne s'improvise pas, hein, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer trop facilement.
Et donc, on peut, au lieu de les aider, on peut même...
Ça peut avoir des effets détestables. Ça peut braquer les gens, ça peut les mettre dans une situation où ils n'ont pas envie de recommencer, ils n'ont pas envie de reparler. Parce que d'abord, ils n'ont pas toujours envie de parler, ils ont envie d'être écoutés. Ce qui n'est pas du tout la même chose, et d'être entendu sur ce qui les a choqués, eux, et pas sur ce que celui qui écoute imagine que ça a été. Et ça, c'est toujours très compliqué.
Arthur Desnouveaux.
Je suis entièrement d'accord avec ce que vous venez de dire, c'est extrêmement exact. Et je crois qu'en fait, la société nous prépare à enterrer nos proches, mais elle ne nous prépare pas du tout à enterrer une partie de nous-mêmes.
Ouais.
Et en fait, être victime, c'est ça. Et avant de pouvoir enterrer une partie de soi-même, il faut
déjà accepter... C'est ce chemin interrompu dont parle Lévinas.
Exactement. C'est ça, cette rupture entre la vie d'avant, la personne telle qu'elle était avant et la personne qu'elle est après. Je pense que Catherine Bertrand et son boulet symbolisent parfaitement ça.
Catherine Bertrand.
Alors oui, moi je vais plus parler de ce qui se passe au niveau de la tête, même si nous avons un spécialiste. Moi je vais juste parler de ce qui m'est arrivé et de comment je l'ai ressenti. C'est que j'ai été dans le déni. Voilà, le déni pour moi c'est une façon de se protéger, dire non, ma vie va pas basculer, non, tout va bien, ça va aller. Et cette phase de déni, elle est vraiment personnelle, ça dépend des gens. Cette temporalité, elle dépend vraiment de la personne, voilà.
Et puis, il y a tout de même quelque chose, Arthur Desnouveaux, c'est que selon qu'on se souvienne des attentats d'un jour ou d'un autre jour, d'un type d'attentat de Nice, on en a parlé, ou on pourrait parler de la préfecture de police, même si on ne sait pas très bien quelles sont les motivations du tueur de la préfecture de police, mais on pourrait parler aussi du fait que selon que l'on est au Stade de France, que l'on est aux terrasses, que l'on est au Bataclan, on ne se souvient pas, la société ne se souvient pas de la même manière de ce qui s'est passé. D'ailleurs, on dit souvent maintenant, de façon un peu ramassée, l'attentat, le 13 novembre, c'est le Bataclan.
Bien sûr, c'est quelque chose contre laquelle, évidemment, une association de victimes comme Life for Paris se bat continuellement. C'est être victime deux fois que de devoir à la fois s'accepter comme victime et devoir faire en sorte que la société reconnaisse que le lieu sur lequel vous étiez fait bien partie de l'attentat qui s'est produit. C'est très spécifique, je pense, au 13 novembre, en revanche, qui était vraiment quelque chose qui a choqué la nation par sa préparation, par son côté diffusé en direct, par le côté attaque de la ville lumière. Et je pense qu'Elisabeth Pelzé, qui a vu malheureusement plus d'attentats que moi, a peut-être une vision un peu plus nuancée sur le sujet.
Elisabeth Pelzé.
Oui, moi j'ai été quand même très frappée par l'attentat de Trèbes-Carcassonne, parce que c'était dans un supermarché où les gens faisaient leurs courses. C'est une toute petite ville. Et en fait, j'ai vraiment mesuré à quel point tout d'un coup aussi passait dans l'esprit de beaucoup de Français que ça pouvait arriver dans des localités extrêmement modestes du point de vue de la taille. Et puis l'autre élément aussi de l'attentat de Trèbes-Carcassonne, c'est que la figure du colonel Beltrame a supplanté celle du terroriste, ce qui a été aussi un événement quand même très particulier. Mais ce que dit Arthur Desnouveaux est tout à fait juste. Ce qui est compliqué, c'est qu'il y a des attentats dans lesquels il y a eu une ou deux personnes qui ont trouvé la mort. Et quand on reçoit les familles de ces personnes victimes, elles disent « on nous oublie ». On nous oublie et au profit finalement d'événements qui sont beaucoup plus importants. Et notre idée aussi, c'est justement, en travaillant sur la mémoire des attentats depuis une cinquantaine d'années, c'est d'essayer de tous les recenser et de ne pas les oublier.
Richard Eichmann, sur cette réception différenciée de tel ou tel événement traumatique comme ceci.
Ah, c'est un point qui est tout à fait important, parce que les victimes ont la nécessité d'être entendues dans ce qui leur est arrivé, puisque comme vous le disiez très justement, c'est doublement victime. Alors c'est pas la même chose, c'est pas la même façon d'être victime, mais c'est très préoccupant que les gens puissent ne pas se reconnaître dans une identité qui devient une identité collective. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est encore ce que je disais tout à l'heure, c'est de faire que l'individuel soit repris dans le destin collectif. C'est ça qui est essentiel.
Alors, il y a évidemment des discussions qui sont entamées pour pouvoir trouver un lieu, un type de lieu dans lequel on pourrait se recueillir, comme dans les lieux où on rend hommage aux morts de la nation ailleurs. Il y a des discussions sur ces questions-là, à savoir est-ce qu'il faut un lieu, est-ce que c'est indispensable, est-ce qu'il faut pas attendre un peu pour pouvoir le faire. Où en est-on justement de ce côté, Isabelle Pelletier?
Donc en fait, il y a eu un rapport d'un comité mémoriel qui a préconisé notamment la création d'un musée mémorial. On peut trouver d'autres appellations, mais d'un lieu de mémoire qui retrace les 50 dernières années en France au cours desquelles il y a eu des attentats, qui soit un lieu d'analyse, de compréhension, qui soit un lieu aussi d'accueil de public très large. Et ce qui est important aussi, c'est que ça soit un lieu de recueillement pour les victimes. Mais par rapport à tout ce qui a été dit au départ, et par rapport au livre d'Antoine Garapon et d'Arthur Desnouveau, l'intitulé de ce musée, c'est « Un musée des sociétés face à la violence ». Ce n'est pas un musée des victimes du terrorisme.
Pourquoi ça évolue d'une certaine façon? Parce que ce n'est pas comme ça que ça a été présenté au tout début.
Si, en fait, il a été présenté comme ça dans le rapport du comité mémoriel, dès le départ.
Et il n'a pas été entendu comme ça par les médias, alors c'est ce que vous voulez
voilà.
dire.
Voilà, il a été entendu d'une manière un peu plus raccourcie et probablement peut-être simpliste. L'idée, c'est vraiment de montrer comment les sociétés ont été confrontées à la violence terroriste depuis les années 70, en tout cas la société française, et puis aussi comment ça a impacté toute la société. Et ce que nous voulons aussi, c'est faire une place, par exemple, à tous ceux qui sont intervenus, les forces de l'ordre, les pompiers, tous les passants qui ont été les premiers aidants des victimes. Toutes ces personnes aussi doivent être mises en valeur. Et ce que l'on aimerait, c'est que lorsque l'on sort de cet endroit, il y ait quand même un message d'espoir qui soit donné. D'abord, les sociétés ont résisté, elles ont tenu, que la mémoire collective intègre la mémoire individuelle et que donc, en fait, on est prêt à repartir avec une image qui soit celle d'une force qui est celle de la société face à de tels phénomènes.
Mais il y a aussi des parents de victimes qui ont écrit des textes pour dire que, qu'on fait, est-ce que c'était bien indispensable que de faire un tel lieu, justement, Elisabeth Pelletier?
C'est normal que tout le monde ne soit pas d'accord. Ça me paraît même plutôt sain. C'est normal aussi qu'il y ait des questions comme, et c'est celle qu'on rencontre le plus souvent, comment vous pouvez créer un lieu pour une histoire en marche, puisque malheureusement, on sait qu'il y a d'autres attentats, que ça ne s'arrêtera pas. Par contre, ce que je peux dire, c'est que dans le travail que l'on fait, on rencontre de nombreuses associations, elles nous apportent elles-mêmes leurs contributions, mais je crois qu'il y a quand même l'idée qu'on est arrivé à un moment où c'est intéressant de construire ce lieu de mémoire.
Richard Eschmann.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. C'est essentiel qu'il y ait du débat. Si on veut que les choses rentrent dans l'espace public et redeviennent dans la normalité, alors je m'opposerai un tout petit peu à cette idée de sacralisation. Il s'agit que ça revienne dans le débat public. Et dans le débat public, tout le monde n'est pas d'accord avec tout. Parce que s'il fallait qu'il y ait la majorité, par exemple, France Culture n'existerait peut-être pas. Parce qu'il n'y a pas que...
Arrêtez, ça existerait quand même.
Mais bien sûr, il ne peut pas y avoir des gens qui sont d'accord avec tout. Et c'est ça la démocratie. C'est ça qui fait que, justement, il est possible de créer des choses qui vont rencontrer parfois un accord, parfois un désaccord. Et le débat et la contradiction font entrer l'événement dans l'espace public.
Arthur Desnouveau, au sein de Life of Paris, par exemple, vous êtes tous d'accord sur ces questions? Est-ce qu'il y a des débats, justement, à l'intérieur d'une association? Il y a d'autres associations?
Il y a évidemment des débats à l'intérieur des associations, mais sur le sujet d'un tel musée, non. On est très clairement pour, et l'autre association de victimes du 13 novembre, qui s'appelle 13-11-15 Fraternité et Vérité, est tout aussi pour. Mais on veut effectivement que ce musée soit un lieu de débat, parce que les victimes ont conscience qu'elles sont encore un sujet d'étude, et elles sont d'ailleurs ravies de participer à bon nombre d'études, comme celle de Denis Péchanski et Francis Eustache.
Il faut rappeler l'étude Remember en particulier, enfin l'étude du 13 novembre, avec ce groupe qui travaille à la fois avec les victimes et ceux qui n'ont pas été aussi victimes, mais qui ont été marqués par ces attentats du 13 novembre, mais aussi qui travaillent à la fois en matière de sciences humaines et de sciences dures, pourrait-on dire, à partir des questions neurologiques, des questions qui ont été d'études du cerveau, qui permettent de savoir comment s'inscrit une mémoire traumatique dans les cerveaux. On n'a pas encore, pour l'instant, de résultats de cette étude du 13 novembre, Elisabeth Pelletier.
En fait, il y a quand même déjà des lignes fortes qui ont été dégagées des premières auditions qui ont été faites par Denis Péchanski.
Il faut rappeler qu'il y a des cohortes, plusieurs types de cohortes, voilà. Ceux qui ont vécu les attentats, ceux qui étaient voilà. À Paris à ce moment-là et qui ne les ont pas vécu, et ceux qui étaient en province, qui en ont entendu parler.
Exactement, avec une retranscription de toutes les auditions et une série de secondes auditions qui sont en cours. Donc en fait, ce que décrit aussi Denis Péchanski, c'est cette mémoire en tau noir qui commence à oublier d'autres événements pour se concentrer sur le Bataclan, et il le dit très bien. Il explique aussi très bien justement le lien entre mémoire individuelle et mémoire collective, et puis le suivi dans le cerveau des personnes qui sont entendues est quand même très intéressant.
Et puis il y aura un autre moment que certains attendent et d'autres redoutent, c'est le moment du procès. Catherine Bertrand, ou pour vous Arthur Desnouveaux, ce moment est un moment qui peut être espéré, parce que tout compte fait, on va peut-être comprendre ou essayer de comprendre ce qui s'est passé, ou au contraire qui peut être une clôture ou une ouverture.
Alors personnellement, ça va rien m'apporter. Ça va surtout m'apporter un peu plus de colère et me replonger dedans, donc. Moi, je pense que je vais garder mes distances, mais c'est vraiment un point de vue strictement personnel.
Arthur Desnouveaux ?
Moi, j'ai l'impression que c'est une étape qui est dans la tête de toutes les victimes depuis juste après l'événement, et que c'est un peu comme le premier anniversaire. Ça va quand même débloquer beaucoup de choses, il faut en passer par là. Et il faut aussi, et ça me paraît très important, que l'état de droit triomphe, et les victimes, ils sont très attachés face à la barbarie du terrorisme. Et donc je pense quand même que la justice française va permettre aux victimes de sentir que l'État est une force qui les soutient.
Ah, Richard Reichmann.
Oui, la justice n'a pas vocation à réparer psychologiquement les gens. Je crois qu'il faut pas confondre les registres.
Non, mais comme le dit Antoine Garapon dans ce petit texte, le procès est une cérémonie de parole. Donc c'est la parole officielle de l'accusation.
Oui, mais justement, si trop souvent ça devient une dimension thérapeutique, alors à ce moment-là, la justice y perd aussi ses plumes. C'est-à-dire qu'elle a une fonction sur l'espace social qui est bien plus large que l'aspect thérapeutique. L'aspect thérapeutique, il est individuel, il est singulier, il est intime. Je crois qu'on n'aurait pas intérêt à mélanger toujours les deux registres.
Et Elisabeth Pielcé, vous le sentez, cette attente du procès et peut-être cette crainte ?
Oui, il y a attente et crainte, ça me paraît tout à fait normal. En tant que magistrat, je pense que le procès est un moment essentiel. Je crois que Henri Rousseau, le préfigurateur de notre mission, accorde aussi beaucoup d'importance, puisque dans le lieu de mémoire qu'on prévoit, il y aura probablement l'enregistrement de ces procès. Et il dit souvent, la connaissance fait partie de l'histoire. Et ces moments du procès seront aussi un moment essentiel dans la mémoire collective. Et je voudrais juste dire que sur l'île du Toya, quand il y a eu le massacre, le mémorial qui a été dressé, l'image à la fin du mémorial en Suède, en Norvège,
pardon.
C'est l'image du procès quand il est jugé. Et c'est aussi une forme de clôture.
Merci beaucoup Elisabeth Pelcé, vous êtes déléguée interministérielle à l'aide aux victimes. Merci à vous Richard Reichmann. Je rappelle que vous êtes auteur d'un livre sur la condition de victimes et que vous écrivez un livre qui paraîtra en janvier sur la vie ordinaire des génocidaires. Arthur Desnouveaux, vous êtes co-auteur avec Antoine Garapon de Victimes et Après dans la collection Tract Gallimard. Et puis pour votre part, on peut lire vraiment avec beaucoup d'intérêt Catherine Bertrand, votre travail, Chronique d'une survivante aux éditions de La Martinière. Et puis un tout autre travail très différent, L'Anti-Mandala, un cahier de coloriage pour adultes qui vient tout juste de sortir également aux éditions de La Martinière. Merci à tous les quatre. C'était le temps du débat. Chloé Cambrelin, Louise André, Fanny Richer, Rémi Baye et Hugo Boursier. À la technique aujourd'hui, Jacques Hubert. À la vidéo YouTube, Diego Hac-Lopez. Et à la réalisation, Thomas Duterre.